Maintenant en compagnie d'Anne Verdaguer pour le Journal des Amériques et d'Haïti. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommaire de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, la poignée de main historique et symbolique entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour. Symbolique, c'est bien le mot puisqu'on le verra dans votre revue de presse, Romain Lemaresqui. Il n'y a pas eu d'avancée majeure en termes d'engagement de la part de la Corée du Nord pour sa dénucléarisation. Et puis également dans la revue de presse, le Nicaragua qui s'enfonce chaque jour de plus en plus dans la crise. L'élection présidentielle en Colombie, deuxième tour dimanche prochain. Le candidat de droite, Iván Duque, sera opposé à l'ex-guérillero de gauche, Gustavo Petro. On fera un point avec le responsable du CICR en Colombie sur la situation sécuritaire dans le pays. Et puis enfin, les nouvelles d'Haïti à suivre avec Godson Pierre d'Alter Press. La revue de presse des Amériques, Romain Lemaresqui, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une ce mardi, la rencontre donc qui s'est tenue tout à l'heure à Singapour entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un.
Oui, un événement que l'on retrouve à la une de presque toute la presse continentale, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Colombie ou encore en Argentine.
Anne. Romain, quels sont les titres en une de cette presse américaine?
Eh bien, première chose à préciser, comme ce sommet a débuté à 9h du matin, heure de Singapour, les quotidiens américains ont pu mettre sur leur page de garde la photo des deux dirigeants se serrant la main. Les titres ne varient pas beaucoup. Poignée de main historique, titre le Dallas Morning News. Trump et Kim laissent de côté les sarcasmes pour mettre fin à la crise, peut-on lire en une du New York Times. Ou encore, Trump et Kim s'engagent dans une nouvelle voie en une du Wall Street Journal.
Romain, au-delà de la dimension historique de cette première rencontre entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen, quels sont les résultats obtenus?
Alors, comme le titre en une de son site, la revue politique américaine Politico, Trump et Kim jurent de dénucléariser la Corée du Nord, mais comme le précise la revue sous ce titre, la déclaration commune des deux dirigeants ne fait état d'aucune étape concrète pour mettre en œuvre cette dénucléarisation. La presse américaine, il faut l'avouer, s'interroge énormément ce matin sur les suites de cette rencontre, Anne.
Oui, car le document final de 2 pages et 5 paragraphes reste très vague, Romain.
Oui, c'est ce que pense le New York Times. En fait, comme l'explique le quotidien new-yorkais, Donald Trump a livré plus de détails lors de sa conférence de presse. Le président américain a notamment annoncé la suspension des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, tout en précisant qu'il attendait de Kim Jong-un qu'il entame rapidement le démantèlement de l'arsenal nucléaire nord-coréen. Pour l'instant, il n'est pas question de lever les sanctions américaines, a précisé Donald Trump. Par contre, les États-Unis s'engagent à fournir des garanties de sécurité à la Corée du Nord. Pour ce qui est de la suite, il faudra attendre les futures réunions entre les deux pays, dont on ne connaît pas la date, ou alors la visite de Kim Jong-un à Washington, puisque Donald Trump a profité de cette rencontre pour l'inviter officiellement.
Tout autre sujet à la une, Romain, on en parlait déjà hier. Au Nicaragua, plus les jours passent, moins une issue à la crise sociale et politique semble envisageable.
Et oui, hier, les autorités ont littéralement semé la panique dans certains quartiers de la capitale Managua, titre ce matin le quotidien Hoy. Selon le journal, tôt lundi matin, la police ainsi que des milices armées sont arrivées en tirant dans des quartiers où étaient érigées des barricades. Le but, faire fuir les protestataires pour démonter ces barricades. Des manifestants qui ont fui, mais qui sont revenus une fois les autorités parties pour réinstaller ces barricades, précise le quotidien. Managua avait des airs de ville assiégée, selon la Prensa. Pour ce quotidien, cette recrudescence de la répression de la part des autorités est tout simplement la seule réponse donnée par la présidence à la proposition de démocratisation du pays adressée par la conférence épiscopale au président Daniel Ortega. Ce mardi, le Nicaragua va connaître une 57e journée de protestation, 57 jours au cours desquels 146 personnes ont perdu la vie, rappelle la Prensa.
On descend un peu plus au sud, Romain, plus précisément au Panama, où l'ancien président Ricardo Martinelli est arrivé hier, après le feu vert à son extradition.
Et oui, la justice de son pays le réclamait aux autorités américaines depuis plus d'un an, rappelle la Estrella de Panama. Ricardo Martinelli vivait jusqu'à présent en Floride, mais depuis hier soir, il est détenu dans son pays. La justice panaméenne accuse l'ancien président d'avoir fait espionner les conversations téléphoniques d'environ 150 personnes, dont des journalistes, des responsables de la société civile et des membres de l'opposition. Il est également soupçonné d'être à l'origine de la surfacturation d'un contrat de 45 millions de dollars d'achat d'aliments pour des écoles, rappelle le quotidien. Envoyé dans un premier temps en prison, il a finalement été transféré dans la nuit dans un hôpital pour des raisons médicales, précise ce matin le quotidien El Siglo.
Merci beaucoup Romain Lemaresqui pour cette revue de presse des Amériques. Et on part à présent en Colombie, où le vote pour le second tour d'élection présidentielle aura lieu ce dimanche. Le candidat de la droite conservatrice, Iván Duque, est opposé au candidat de gauche, Gustavo Petro. C'est la première élection présidentielle post-accord de paix signée avec la guérilla des FARC. Les deux candidats s'opposent sur plusieurs questions clés, le modèle économique, mais aussi les accords de paix, dont Iván Duque dit vouloir modifier certains points, notamment les sanctions contre les ex-guérilleros. Sur le plan sécuritaire, les armes des FARC se sont tues et les quelques 8000 guérilleros se sont démobilisés. Mais sur le terrain, la situation est toujours tendue pour la population colombienne, comme en témoigne Christophe Arniche, directeur de la délégation du CICR en Colombie, le Comité international de la Croix-Rouge. Véronique Guémard l'a rencontré à Bogota.
Très peu a été fait. Et beaucoup reste à faire. On est loin du compte. Et cette population, on peut le dire, n'a pas vu ce qu'on appelle dans la littérature souvent les bénéfices de la paix.
Christophe Arniche dirige la délégation colombienne du CICR depuis août 2014, exactement au début du second mandat de Juan Manuel Santos. Celui-ci avait déclaré « Mon premier mandat était celui de la guerre contre les FARC, le second sera celui de la paix ». Effectivement, les accords de paix ont été signés en 2016, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été suffisamment mis en œuvre, constate Christophe Arniche.
Aujourd'hui, on est dans une situation où dans beaucoup d'endroits en Colombie, les gens nous disent « c'est pire qu'avant » parce que les mécanismes de référence pour la sécurité qu'on avait dans le passé ont disparu. Ce qui est arrivé, c'est des acteurs qui ont des intérêts essentiellement commerciaux dans l'économie illégale et l'État, avec ses structures de base, une sécurité minimale, cet État n'est pas arrivé encore. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu seulement les assassinats de leaders sociaux ou qui défendaient les droits de l'homme. Mais l'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas eu des bénéfices, même minimaux. Un centre de santé, un juge, un policier qui est responsable pour la loi et l'ordre, tout ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait. Et donc, le pays se trouve face à l'énorme défi d'amener quelque chose qu'il a promis.
Des promesses qui sont d'ailleurs contenues dans les accords de paix. L'accès à la terre, notamment, mais c'est surtout une question de volonté politique, car construire la paix prend du temps, souligne Christophe Arniche.
On est dans une situation où on a compris que négocier une paix est possible, mettre en œuvre les premiers pas de cet accord de paix est possible, désarmement, début de la réintégration, mais faire la paix, construire des petits pas de la paix, c'est quelque chose que la société colombienne, les classes politiques de ce pays n'ont pas encore vraiment commencé. Il y manque certainement la volonté et peut-être aussi on a sous-estimé combien d'efforts il faudrait pour construire la paix, et que construire la paix est quelque chose qui se fait dans la durée, avec une volonté minimale de vraiment faire la paix, surtout pour des populations qui vivent dans des régions qui n'ont jamais vu la présence de l'État, ou où l'État a souvent été une grande déception parce qu'il n'a pas fourni le minimum pour la population et qu'il n'a pas fourni un minimum de protection pour ces populations. C'est donc une situation qui reste dans la majorité des régions où nous vivons et où nous travaillons, qui n'a pas fondamentalement changé. Et n'oublions quand même pas que la paix avec les FARC, c'est une chose, c'est une dimension importante. Il ne faut jamais sous-estimer le succès de ça, mais il reste les LN, il reste les PL, il reste les Gaitanistas, et il reste des petites bandes armées qui sont en train, de façon très négative, d'influencer la vie des populations dans ces régions.
Cette multitude de groupes parfois inconnus crée la crainte, confirme Christophe Arniche. Le CICR lui-même peine à identifier leur chef pour négocier des accords humanitaires. Et ces menaces ont des répercussions sur les déplacements de population.
On a en fait vu une augmentation en 2018 du nombre de familles déplacées, ce qui veut dire que la réalité dans beaucoup de régions est encore une réalité de guerre. Et c'est pour ça qu'on doit dire que dans ces régions, les bénéfices de ce que était la négociation de la paix est effectivement quelque chose qui n'est pas encore arrivé.
Ces menaces mettent en péril la sécurité de la population dans plusieurs régions du pays, prévient Christophe Arniche du CICR. Ce sera selon lui l'un des thèmes majeurs que le prochain gouvernement colombien issu des urnes dimanche prochain devra résoudre.
Christophe Arniche, directeur de la délégation du CICR, était interrogé par Véronique Guémard.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Pour les nouvelles d'Haïti, on retrouve Godson Pierre d'Alter Press à Port-au-Prince avec à la une ce nouvel incendie dans un marché de la capitale.
Un incendie s'est en effet déclaré hier soir au marché Bois, à proximité du marché du port, au bas de la ville de Port-au-Prince. Au milieu de la nuit, le marché brûlait encore alors que les sapeurs-pompiers faisaient de leur mieux pour éteindre les flammes. Les ressources de la mairie de la capitale étaient mobilisées pour tenter de gérer la situation. C'est ce qu'a fait savoir le maire de la capitale, Youri Chevry, joint au téléphone par Alter Press. Pour l'heure, aucune information n'est disponible sur l'origine du feu et le bilan des dégâts. Les incendies de marché sont récurrents à Port-au-Prince. Il y a environ 4 mois, 2 marchés publics situés au bas de la ville ont été consumés par les flammes. En février dernier, le marché Hippolyte et le marché du port ont été ravagés par le feu et les commerçants qui ont tout perdu ont été quasiment livrés à eux-mêmes.
Godson, autre fait marquant du jour en Haïti, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan a été hué lors de son discours au Parlement, lors duquel il devait présenter le bilan de ses actions au cours de ces 6 derniers mois.
L'incident s'est produit à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année législative. Lafontan n'a pas eu le temps de présenter le document dont il a rapidement fait le dépôt au bureau de l'Assemblée. Il a été sifflé à plusieurs reprises par des parlementaires. Le président du Sénat a dû mettre fin de manière précipitée à la séance. Lafontan est sous le coup d'une demande d'interpellation par la minorité parlementaire à la Chambre basse. Les députés qui veulent l'interpellation sont ceux qui avaient sommé le chef du gouvernement de soumettre au Parlement les pièces de 5 ministres nouvellement investis dans leurs fonctions. Après un léger remaniement ministériel le 23 avril, les députés disaient vouloir s'assurer que toutes les normes ont été respectées dans le processus de nomination des nouveaux ministres. La sommation s'est donc transformée en demande d'interpellation.
Et pour finir, des gangs armés toujours très actifs au sud de la capitale Port-au-Prince avec de nouvelles tensions hier et des tirs à l'arme à feu.
Eh bien, les quartiers de Porta Eleogane, Bicentenaire, Bolos et Martissan au sud de la capitale ont vécu une journée de panique et de tension hier, selon des informations rapportées à Alter Press. Des tirs d'armes automatiques ont ponctué la journée et des témoignages ont fait état de déploiement de civils armés très menaçants. Contacté par l'agence en ligne, la police n'était pas en mesure de fournir plus d'informations. Selon des informations difficiles à vérifier, il y aurait des victimes. Dans la soirée, des agents de plusieurs unités de la police ont pris le contrôle des quartiers en question, selon des témoins. Depuis quelques mois, le dossier des gangs armés qui font la loi dans les quartiers populaires a refait surface après la disparition à Grand Ravine du photojournaliste Vladimir Le Gagneur le mercredi 14 mars. Le confrère de 30 ans s'était rendu dans ce quartier du sud de la capitale pour réaliser un reportage sur les conditions de vie dans ce quartier. Depuis lors, il n'est jamais revenu. La corporation s'est mobilisée. Une enquête judiciaire est en cours. La police n'a pas fourni d'informations sur la suite de l'enquête policière qui a été ouverte.
Merci beaucoup, Godson Pierre, du site Alter Press.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal La Première, présenté par Edwige Saint-Thomas. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et à la une aujourd'hui, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a détaillé son plan pour venir à bout des algues sargasses.
Oui, en visite hier en Guadeloupe, Nicolas Hulot a annoncé notamment une enveloppe financière supplémentaire pour venir à bout de ces algues brunes nauséabondes et toxiques qui polluent les rivages aux Antilles depuis plusieurs mois. Nicolas Hulot est au micro de Guadeloupe La Première.
Dans l'immédiat, on va compléter l'aide aux collectivités que nous avions fait dans un premier temps. Pour 2018, nous allons remettre 3 millions supplémentaires pour aider les collectivités dans le ramassage. Et puis, dans un souci de moyen terme, nous allons mettre à disposition d'ores et déjà entre 4 et 5 millions d'euros pour ce qui concerne l'État, pour faire des investissements, en s'appuyant sur les expériences à la fois des territoires, éventuellement des pays voisins, pour investir évidemment dans les équipements les plus appropriés pour optimiser, massifier le ramassage des sargasses. Et dans le même temps, on va relancer avec l'ADEME un appel à un projet avec 1 million d'euros supplémentaires pour essayer là aussi de créer une forme d'émulation sur l'innovation. Parce qu'il faut s'adapter à ce phénomène. Et puis, nous allons également renforcer la prévision des phénomènes. Et on va mettre également entre 300 et 500 000 euros pour renforcer la prévision satellitaire.
Le ministre de la Transition écologique et sa collègue chargée des Outre-mer se sont ensuite rendus dès hier soir en Martinique, touchés également par ce phénomène. Ils doivent notamment visiter aujourd'hui une entreprise spécialisée dans la valorisation des sargasses. Deuxième jour de mobilisation pour défendre la santé en Martinique. Une manifestation est prévue ce matin vers la préfecture à Fort-de-France. Le collectif CHUM Douvan-Douvan appelle à la grève générale en espérant que cette nouvelle action soit plus suivie que celle d'hier. Et puis vers un accroissement du parc de voitures électriques en Guadeloupe. La semaine dernière, EDF et ses partenaires ont présenté le dispositif Drive, dispositif de recharge intelligente de véhicules électriques. Une révolution qui ouvre la voie au déploiement de ce type de véhicules en Guadeloupe en permettant que leur recharge soit assurée exclusivement à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce dispositif nécessite l'installation de nouvelles sources d'énergie comme la Smart Flowers, fleur intelligente, qui comme le tournesol suit le soleil pour lui prendre cette énergie. Les explications de Christian Ibab de la société conceptrice de cette Smart Flowers. Il est au micro Guadeloupe la Première de Steve Prudent.
C'est une fleur photovoltaïque qui va produire 4500 kWh par an. C'est beaucoup plus qu'un foyer en Guadeloupe. Ça permet de charger un véhicule, deux véhicules selon votre véhicule dans l'année. Il s'intègre parfaitement dans ce projet innovant pour la transition énergétique et la recharge des véhicules dans l'île, puisqu'on sait au fil des années prochaines, c'est une évolution importante qu'on va connaître sur ce parc de véhicules. Et il est important aujourd'hui qu'on mette en place les meilleurs moyens de produire de l'énergie propre. Et nous, Sunzeal, on compte à participer à travers cette Smart Flower, mais aussi à travers d'autres solutions photovoltaïques pour des flottes plus ou moins importantes en utilisant des toitures existantes et en développant donc des solutions adaptées à chaque collectivité ou entreprise.
Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée.
Merci et très bonne journée à vous Edwige Saint-Thomas merci pour ce journal La Première. Et on termine en musique avec Everyday Good de Patrice.
Don't give up the fight, no, no.
Ooh yeah, yeah, yeah. Ooh yeah, yeah, yeah. Yes, everyday good. Ooh yeah, yeah, yeah. Because of being alive. I say everyday is good because of being alive, alive, yeah. Oh na na. From the day I was born to the day may I go die, yeah, yeah, yeah. Every day is good because of being alive, alive, yeah. Oh na na. From the day I was born to the day may I go die, yeah, yeah, yeah. In high tide and in low tide, I know that Jah will always be by my side. He might the one who carry me through the night every day. He make me open my eyes. And I will never give up the fight, no go. And I will never give up my pride, no go. And if tomorrow I shall die again, I know that today is good because I am alive, yeah. Every day is good because of being alive, alive, yeah. Oh, na, na. From the day I was born to the day may I go daggy, ya daggy, yeah, yeah, yeah. Every day is good because of being alive, if I like it, yeah. Respect you, but I love you. Who are you? Oh, Father, Jaja, enough time and I appreciate the things where you give. I am a ball. May I walk through the valley of the shadow of death? And me no go, no, me no have no fear. Cause I know that at the end of the day, Jaja, we be waiting, waiting, waiting. Yeah. Every day is good because of being alive, if I like it, yeah. Oh, na, na. From the day I was born to the day may I go daggy, ya daggy, yeah, 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 yeah.
No, 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 no
C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à toute l'équipe du service international de RFI qui a contribué à cette édition. Merci à Nicolas Benita à la réalisation. Une très très belle journée à tous. Merci.